Haïti Inter présente une émission du Nouvel An. Décembre 1975, l'année s'achève. 1er janvier 1976, vive le Nouvel An. Le Nouvel An, c'est pour vous l'occasion de nouvelles robes, mesdames, de nouveaux costumes, de souliers qui font mal, de visites auprès des grands-parents, grand-mère, grand-père, grande-tante, d'un petit peu de sirop rouge ou d'un morceau de gâteau. Le Nouvel An, c'est aussi, pour certains, l'occasion de se souvenir, l'occasion de réminiscence, ou encore pour d'autres, l'occasion d'un sourire.
L'ojou de l'an pral rive, kou chaque année li gan pou rive, pou n passe français nan bêtise, nous dit m'ap souhaité la raisonner. Quand jou de l'an fin rive, nan pren moyen pour envoyer ça, pou n passe américain nan tintin, nous dit à pied nou yé. Lò wè pa wè li rive, 1er janvier sou nou vre, ay ay ay, pou n pété tête nou toujou, nous dit mes amis, bwa nanè.
Heureuse année, Happy New Year. Mais on le dit un peu partout dans le monde. On le dit en pensant quand on est hors du pays. On le dit en pensant au pays, à ce pays qui nous permet de rêver, rêver à Paris, à Dakar, à Berlin, à Londres, à New York ou à Los Angeles, en ce grand jour qui nous permet aussi d'illuminer l'appartement.
Li mien tout li mien nan chanm nan. Bon nan pèmèt li mandem, c'est 14 juillet. M'dil, non, c'est 1er janvier.
Bon. Mais à Paris, d'autres aventures surviennent au noir d'Haïti. Dans le métro, par exemple.
Et ti petit nan train ki gadem, li mande maman, si la pa méchant. Petit, al mande grand nou, sal pran Saint-Domingue.
Mettre la raison, li mettre boilan, li mettre apinouyi, li mettre félicidad, li mettre sauvléa. Mais 1er janvier pour nous tous, c'est pour nous songer ça que t'es passé dans tant longtemps. C'est pour nous songer ça que t'es passé 1804, gain 172 ans, oui mes amis. Pas oublier ça, non? Nous mettre à danser, nous mettre à bambiler, mais c'est pour nous songer ça tout. C'est pour nous songer ça que passé le ça. C'est pour se souvenir que Radio Haïti Inter ce soir vous offre une émission du Nouvel An qui est aussi une émission du souvenir 1804-1976, 172 ans.
Liberté ou la mort, acte d'indépendance, armée indigène, Gonaïves, le 1er janvier 1804, en premier de l'indépendance. Aujourd'hui, 1er janvier 1804, le général en chef de l'armée indigène, accompagné des généraux, chefs de l'armée, convoqué à l'effet de prendre les mesures qui doivent tendre au bonheur du pays. Après avoir fait connaître aux généraux assemblés ses véritables intentions d'assurer à jamais aux indigènes d'Haïti un gouvernement stable, objet de sa plus vive sollicitude, ce qu'il a fait par un discours qui tend à faire connaître aux puissances étrangères la résolution de rendre le pays indépendant et de jouir d'une liberté consacrée par le sang au peuple de cette île. Jurer à la postérité, à l'univers entier, de renoncer à jamais à la France et de mourir plutôt que de vivre sous sa domination. Fait au Gonaïves le 1er janvier 1804 et le premier jour de l'indépendance d'Haïti. Dessalines, général en chef, Christophe, Pétion, Clairvaux, Geffrard, Vernet, Gabart, Romain, Guérin, Capois, Do, Jean-Louis François, Firou, Cangé, Bazelay, Magloire-Ambroise, Herne, Toussaint, Rave.
Massillon Kwaku. Et c'était ce jour-là qu'on les vit radieux. Et c'était ce jour-là que l'on vit la victoire baiser avec orgueil leur front majestueux. Et qu'un serment scella le secret de leur gloire. Que là d'être témoin de crimes odieux, le ciel sur l'oppresseur vengea la race noire et traça cette page unique de l'histoire. Des esclaves au nid devenus demi-dieux. Contre le joug, le fer, les tortures, les crimes. Ils avaient ces géants, ces héros, ces sublimes, empruntés de sa force à la divinité. Et quand Dieu dans leur cœur eut soufflé son génie, on vit de leur long choc avec la tyrannie sur la terre des Noirs jaillir la liberté.
Vertières. Ils sont là, les héros de la Dige et du Rhin. Ils ont environné de leurs canons d'airain Bréda, Pierre-Michel et Champin et Vertières, et ces mornets flanqués de bouches meurtrières. Ces forts improvisés les voilà condamnés à réduire au néant tous ces noirs obstinés. Mais qu'importe, l'armée indigène est campée, se flattant de franchir d'une seule enjambée des entraves sans nombre et d'aller sans retard jusqu'aux portes du Cap planter son étendard. Vertières, lui surtout, Vertières est là qui gêne ce merveilleux élan de l'armée indigène. Là, comme un aigle fier, dardant un œil puissant, le drapeau tricolore ondule menaçant. Ici, les noirs, partout étendus dans la plaine, les noirs nombreux, serrés, exaltés, hors d'haleine, s'agitent du désir d'éclairer du flambeau de la réalité leur rêve obscur, si beau. Dessalines paraît, calme, il combine, il règle. Et puis, autour de lui, plongeant ses regards d'aigle, il ordonne à Capois d'aller sous les canons. « en avant !» Capois part. La mitraille le décoiffe, n'importe. Animant la bataille, tout en lui surexcite, électrise les cœurs. Il veut, dans ses héros, couronner des vainqueurs, voir sur les noirs martyrs la race noire libre. Le héros disparaît et le feu recommence. Et grand dans leur essor, serein dans leur démence, sous la foudre qui broie et qui n'arrête pas, ses preux illuminés bondissent, l'arme au bras, et l'on monte, et l'on tombe, et l'on meurt pêle-mêle, car de les voir toujours, intrépides comme elles, et malgré tout, montant, prêts à saisir le fort, la mort semble jalouse et les frappe plus fort, et Vertières n'est plus qu'un immense cratère. Enfin, la lutte arrive à sa suprême crise. Charrier est enlevé, Pierre-Michel s'est tué, Bréda tremble, Vertières, inquiet, abattu, chancelle. Tout à coup se voile la nature, sous les cieux infinis s'étend une ombre obscure. L'espace retentit du choc des éléments, et rapide, partout, éclate par moments, perdu dans les sillons du fer qui les traverse, les lugubres éclairs, précurseurs de l'averse, mille oiseaux effarés tourbillonnent. Il pleut. Alors, mais seulement alors, sous le feu, appalant, l'arme au poing, eux qui jamais n'arrêtent leur merveilleux essor, tous à héros, retraitent. Pourtant les revoilà, dès que le ciel sourit, sous l'élan de leur cœur que la vengeance aigrit, bondissant, emportés, battant encore la charge, tous enfin, comme un seul, se sont jetés au large. Mais à leur beau défi, aucun feu ne répond. Ils sont près du ravin, ils sont devant le pont, et les voilà jurant dans un long cri suprême, ou quand même de vaincre, ou de mourir quand même. Nul ne répond encore, un silence profond les accueille, tandis que, stoïques, ils vont, comme à leur idéal, vont les âmes altières. Or, malgré leurs efforts, sentant crouler vertière, la nuit, devant le noir au courage des reins, avait fui les héros de la Dige et du Rhin.
Si l'homme de Vertière, dans notre mémoire, reste Capois, dit la mort, l'homme du 1er janvier 1804, incontestablement, c'est Jean-Jacques Dessalines, dit le Grand. Jean-Jacques Dessalines, l'empereur pour quelques années plus tard, ce fut, Saint-Victor Jean-Baptiste, l'idéal de la liberté, le plus grand de tous, le vengeur de la race noire, le fondateur de l'indépendance, l'impérator. Celui pour qui la liberté ne pouvait être que totale. La liberté ne pouvait être que l'indépendance politique. Jean Brière. Mais cet homme ne fut pas seulement grand. Il fut extraordinaire. Tous les mots me paraissent froids, mesquins, les épithètes dans la langue que j'écris, et je me demande souvent si les seules sonorités qui conviennent pour parler de lui ne se trouvent pas dans les dialectes et le parler haché du continent africain. Il fut, dit Jean Brière, un illettré. Je réponds que les lettres des mots liberté ou la mort suffisaient à sa culture qui transcende toutes les bibliothèques et toutes les éloquences. Autre témoignage. Dessalines se fortifia dans la conviction qu'un acte aussi grand ne pourrait jamais s'accomplir avec la participation des éléments de l'oppression de sa race. Léon Lalot pense. Dessalines possède aussi la fougue qu'il faut pour incruster dans la conscience rugueuse de ses ilotes, en instance de citoyenneté, le sens de leurs obligations présentes, le sentiment de leurs devoirs de demain. René Salomon, un génie intégralement national, un citoyen moyen réfractaire à tout apport trop brusque de civilisation exotique, un homme de cette masse du milieu de laquelle il vécut heureux jusqu'à son dernier soupir, un homme qui est compétent pour tout ce qui a trait à son pays, génialement intuitif et visionnaire, qui n'eut pas de peine à s'identifier à la nation même, à maintenir en pleine crise sa prospérité et son indépendance, à faire de sa fierté à lui une fierté nationale. Jean Price-Mars, Dessalines fut un symbole parmi ses frères, dont il dirigea l'action guerrière, parce qu'en lui s'incarnait le besoin de vengeance, le ressentiment, cet esclave de Cormier, dont Stenio Vincent a dit « Dessalines le Grand est un bloc ». Il y a 125 ans, sous des balles haïtiennes, un homme tombait, victime de cette horrible convulsion politique de 1806 qui a ouvert, hélas, dans ce pays, l'ère à jamais maudite des agitations perpétuelles et de cette tuerie répétée qui font de presque chaque page de notre histoire un tableau de misère, de ruines et de sang. Et quel homme! C'était celui-là même qui venait de créer la patrie haïtienne. Celui qui, de l'abjection où croupissaient depuis 3 siècles les ancêtres martyrs, les avait élevés à l'humanité par le fer et par le feu. Cet homme est unique. La haine l'a presque déifié. La vengeance l'a grandi. Haine faite d'amour. Vengeance faite de justice nécessaire. Mais l'histoire est venue. L'histoire est chose humaine. Du moment que Dessalines y était entré, la fonction critique de l'historien devait s'exercer sur ce héros. Son œuvre a été appréciée et jugée, et le peuple admire sans réserve. Il a fait de l'homme un symbole. Symbole de foi et d'espérance, symbole des gloires du passé, symbole de la grande œuvre destructrice du régime esclavagiste. Il est bon qu'il en soit ainsi et que ce sentiment utile l'emporte quelquefois sur la grave raison historique, méticuleuse et froide. Dessalines le Grand est un bloc.
Soleil levé, c'est la journée qui tourne. Chrétien nouillé, n'a dit merci bon Dieu. La nuit allée, mes lumières pour nous éclairent. Ensemble, nous réjouissons. Ah oui, non.
Il est temps pour nous de nous interroger. Qui était cet homme? Qui était ce géant? Qui était cet esclave?
Né le 20 septembre de l'année 1758 sur l'habitation Cormier à la Grande Rivière du Nord, il grandit dans la servitude et subit comme eux les rigueurs du régime colonial. Le cœur de l'homme fut aigri et ses fibres psychiques vibrèrent et montèrent à l'octave de sa haine. À la révolte générale des esclaves, il est au premier rang de ceux qui affrontent la mort pour la liberté. Il s'adjoint à Toussaint pour assurer le triomphe de la cause de la République. Par son énergie et sa bravoure, par son aversion contre le système de l'exploitation, il se signale à l'attention de ses chefs hiérarchiques. De capitaine, il est nommé chef de bataillon en octobre 1794 par le gouverneur Lavaux. Et son ascension commence. En 1795, il reçoit son brevet de colonel et est intégré dans la 4e demi-brigade. Deux ans plus tard, en 1797, il est promu général de brigade. Et le 30 août 1800, en l'église paroissiale de Lérogane, il est élevé par Toussaint Louverture au grade de général de division. Ayant combattu avec intelligence et acharnement les Anglais dont les chefs voulaient le maintien du statu quo colonial, il aida ainsi à consolider la position de leader noir, le génial Toussaint Louverture. Immense par sa haine de la haine, il représente, selon Madiou, le principe incarné de l'indépendance et fut barbare contre la barbarie coloniale.
Il n'est pas nécessaire, croyons-nous, de le montrer dans la nuit du 13 au 14 octobre 1803, transfiguré à la pensée de créer une patrie, donnant la collade à Pétion au haut du Cap et ralliant par ainsi les affranchis. Dessalines, dans la contemplation de son œuvre héroïque et sublime, fit jurer à tous les patriotes qui avaient pris la résolution ultime de s'ensevelir sous les ruines de la colonie, de ne jamais trahir la cause de leur race. Il combattit les Congos qui s'étaient emparés des quartiers de la Grande Rivière du Nord, du bourg de la Marmelade, de celui de Dondon, et qui avait arboré le tricolore français. Étaient du nombre les Silla, les Lamour d'Errance, les Petits Noël Prieurs, dont l'action néfaste désagrégeait l'unité de commandement et retardait la marche progressiste vers l'indépendance. Point n'est besoin de le représenter au milieu de son état-major, où il incarnait à cette minute solennelle toute la fierté de sa race, pour répondre au général Lavalette, qui signait la capitulation de Port-au-Prince après 13 jours de siège. « Général, je vous donne la garantie que les représailles ne seront point exercées contre la population civile. D'ailleurs, nos soldats qui luttent pour la liberté ne travaillent qu'à la faire triompher définitivement sur la terre de Saint-Domingue. N'est-il pas un prédestiné, celui qui fut choisi par les génies de la race pour accomplir un acte aussi grandiose et aussi éclatant?
Cet homme, nous dit le docteur Charlier, qui émerge des masses de Saint-Domingue en lutte pour leur émancipation, est l'un des destins les plus hauts de l'histoire. Les Spartacus noirs prédits par l'abbé Rénal, mais en beaucoup plus grand, en beaucoup plus important dans la trame des luttes humaines, d'émancipation, que le modèle antique, puisque si Dessalines mena lui aussi une révolte d'esclaves, il la mena par contre à une issue victorieuse, la première fois et l'unique dans les annales du monde.
Dessalines eut un rêve grandiose, faire d'Haïti le boulevard de la liberté. Il lui donna également une vocation, la vocation de la liberté. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui avec ce 1er janvier 1976, 172 ans après.
Nan kombi d'Haïti, toma toujours gué sans bague à plague et compas.
Grâce à l'Ika plague et son démonio sous la géo encouragé.
La cigale qui m'adresse, chanterelle pas qu'on en y ait pas.
sait chanter. Contre vos soupirs, les fidèles, à paix, santé, s'arrêter. Comment ces envies n'y rivaient, les pagues, même n'y ont bien plus mouche. Pauvre la fille qu'à la paix rivait, tant rien
plus. La révolution était la raison de vivre de Dessalines, et l'indépendance, le dynamo de son action. Sa conception de la révolution n'était frottée d'aucun intellectualisme, nous dit Edner Brutus. Elle ne partait pas du dehors, d'aucune considération ou d'aucun spectacle extérieur à lui. Elle était œuvre de sa chair, car au contraire de Toussaint Louverture, qui jamais ne connut l'exténuation des ateliers ou la lanière plombée du commandeur, le corps de Dessalines et son existence étaient les sources premières de sa détestation du français. Analphabète, il ne connaissait rien à l'encontre de l'ouverture, des commentaires de César, de l'histoire des révolutions d'Angleterre et de l'Espagne, par d'Orléans. Il n'avait jamais ouvert les mémoires militaires et politiques de Lloyd, ni les rêveries militaires du maréchal de Saxe, ni lu aucune ligne de Decléson, de Plutarque ou de l'abbé Rénal. Sa conception de la révolution ne s'alourdissait pas du tout de cela, qui certes apprend à imiter et donne le goût de la gloire, mais qui aussi enseigne à douter. Sa révolution était une protestation de son physique. Il la concevait en choc physique. Et l'esprit n'intervenait dans sa révolution que pour assurer le triomphe des nouveaux libres dès le combat physique avec les Français. Il était enragé contre l'ouverture, estimant qu'il n'avait pas su, malgré le génie que renfermait sa tête, préparer et coûte que coûte, gagner la dernière phase de ce championnat. Pour un chef révolutionnaire, rien n'est aussi sévèrement accusateur que l'insuccès. Il indique non seulement la faillite de sa méthode, mais il peut entamer la qualité de sa pensée, la pureté de sa doctrine.
Dessalines se plaignait que l'ouverture l'eût trompé. Les Français tendaient l'oreille. Il usait de sa mauvaise humeur contre l'ouverture pour tempérer la mauvaise humeur des Français contre lui ou en retarder l'échéance. D'une vérité, il tirait un mensonge. Il recourait à tous les artifices pour l'accréditer et au mieux des intérêts de sa classe, pour profiter du doute ou du sursis que provoquait son mensonge fondamental, régulateur de sa conduite vis-à-vis des Français.
Aux Français, Dessalines répétait que l'ouverture l'avait trompé et que jamais il ne le lui pardonnerait. Il disait que l'ancien gouverneur lui avait affreusement menti sur les intentions de la France, qu'il l'avait porté à prendre les armes en lui certifiant que le capitaine général avait pour mission de retirer la liberté aux nouveaux libres. Maintenant que les écailles lui étaient tombées des yeux, et que, par sa proclamation du 25 avril, Leclerc reconnaissait à Saint-Domingue le droit d'avoir sa propre constitution, il voyait nettement l'égoïsme de l'ouverture. Il déplorait ses extrémités et n'avait plus que l'ambition d'être un loyal serviteur de la mère patrie, la France. Ainsi parlait Dessalines aux Français. Ainsi écoutait les Français. Mais était-il dupe? Dessalines, non dit plus loin Edner Brutus, était au point qui causa la mort de Moïse. À lui aussi, l'homme semblait dépassé. Pour lui aussi, l'ouverture était déjà le passé. D'autant plus que le passé n'était pas seulement une affaire de temps. À son entendement, il ne restait de l'homme de Bréda qu'un grand nom sonore et beaucoup de gloire. Certes, il était désormais démuni de la puissance active, mais il en avait une autre, inaccessible et plus dangereuse, celle d'un symbole. Malgré des erreurs et la catastrophe de sa reddition, Toussaint demeurait le symbole de la liberté de sa classe. Et tant qu'il sera dans Saint-Domingue, la classe des nouveaux libres n'aura jamais l'unité autour du symbole que lui, Dessalines, avait choisi d'être, le symbole de l'indépendance.
Brusquement, Leclerc appelait Dessalines au cap. C'était leur première rencontre. Depuis ce 12 mai 1802, où le dernier avec Belair, il s'était soumis.
Leclerc abordait Dessalines et le fouillant des yeux, lui déclarait sa décision de déporter l'ouverture. Dessalines acquiesçait et crânement confirmait ses rapports sur l'état de trouble entretenu par l'ancien gouverneur. Ce dialogue était au fond un monologue, car chacun des interlocuteurs poursuivait ses propres fins. Dessalines profitait de l'occasion pour accuser l'ouverture de l'avoir incité à la révolte. Il soutenait qu'il avait voulu rentrer dans la légalité après la proclamation du 25 avril, mais que l'ouverture l'en avait dissuadé. Il avançait que maintenant, il comprenait que l'ouverture l'avait dressé en épouvantail pour négocier sur son dos, et qu'après la soumission, il avait poussé l'impudence jusqu'à lui conseiller d'être prêt à toute éventualité, parce que cette soumission n'était qu'un intermède. Dessalines débitait ses accusations froidement, méthodiquement, en homme conscient de ses responsabilités, ne connaissant que sa classe, ne balançant pas devant les moyens, n'ayant cure des sentimentaux égarés dans l'histoire. Il expliquait que devant l'abandon de ses officiers perçant son égoïsme et ses mensonges, l'ouverture s'était rabattue sur les marrons, qu'il en était le grand animateur occulte.
Et il concluait que le repos de Saint-Domingue exigeait l'éloignement de l'ouverture.
L'éloignement de l'ouverture, mais aussi, pour plaire aux Français, la lutte contre les marrons. C'est encore Edner Brutus qui nous parle de cette période de la vie de Dessalines, combattant sous le drapeau français ses anciens frères dans le marronnage. Dessalines combattait le marronnage et s'en trouvait un des plus farouches animateurs. Il était le grand marron, au mi-temps du monde français. Il se servait du désarmement pour purger sa classe, éliminer les tièdes, supprimer les traîtres, liquider des ennemis personnels. Il avait abordé la bande de Sylla avec frénésie, car Sylla, très fier, n'était nullement prêt à baisser pavillon devant lui, Dessalines. Il ne l'avait pas amené devant l'ouverture. Véritable seigneur du marronnage, il se croyait le taille à l'unifier pour réaliser l'indépendance. D'autres, comme Sylla, avaient cette grande ambition. Dessalines voyait en eux des concurrents. Il s'acharnait contre eux, et avec brutalité, il désarmait les cultivateurs qui penchaient vers eux. Ce n'était pas toujours le cas, et quand ce n'était pas le cas, il agissait avec la même froide cruauté. Alors, de bons et loyaux marrons tombaient, parce qu'à Leclerc, il fallait son tas matinal de cadavres, de fusils brisés. Et cela d'autant plus que Leclerc, toujours méfiant, prenait ses précautions. Leclerc écrivait au premier consul. « Les généraux noirs conduisent les colonnes. Ils sont bien entourés. Je leur ai donné l'ordre de faire des exemples terribles. Et je les utilise toujours quand j'ai quelque chose de terrible à faire. »
Dessalines exaspérait beaucoup des siens. Contents de leur exaspération, à travers lui, contre la France, certains de retrouver leur confiance quand l'armée régulière, dans ses paumes et ses arsenaux cachés bien garnis, il pourra encadrer le marronnage pour l'assaut final.
En attendant, à ses confidents que tourmentait souvent son inexorabilité, il expliquait son obligation de sacrifier parfois de véritables révolutionnaires afin de tromper Leclerc. Et il leur demandait de répéter ses paroles. « Je donne au chat un rat pour l'amuser. » Mais soyez sur vos gardes et cachez un fusil dans les bananiers pour vous en servir au besoin. Autant longtemps, c'était merveille. La terre d'ici t'avait brûlé. Marie-Jeanne Belle maniait le sabre. Et ses baisers, c'était du feu. Mais tout partout, dessus la crête, je vous le dis, c'était du feu. Rassemblez-vous, approchez tous. Je vous le dis, c'était du feu. Mon peuple à moi marchait pieds nus. Mon peuple à moi mangeait du plomb. Ah, c'est passé, vraiment passé, ce temps longtemps des carabines. Tambour battait la générale, c'était le temps des grenadiers. Clairon sonnait la générale, c'était le temps des boulets rouges. Drapeaux en tête, chevaux en tête. Je vous le dis, c'était du feu. Autant longtemps, ah, ces merveilles, la terre d'ici t'avait brûlé. De la Torselle à la Gosseline, je vous le dis, c'était du feu. Du sang coulait dans les ravines. Jacques le Fort marchait en tête. Mon peuple à moi prenait les villes. C'était le temps des baïonnettes.
Ceux qui luttaient des semaines entières pour forcer Port-au-Prince ou monter à Vertières, ceux qui, traînant les lourds canons sur le pavé, chantaient au cap Le jour de gloire est arrivé. Ils l'ont vu se lever ce jour au Gonaïve. On a senti passer sur les âmes naïves, en ce 1er janvier de fête et de repos, la bénédiction de Dieu sur nos drapeaux. Mais dans 2 ans, nous renierons notre épopée. La gloire que l'envie et la haine ont sapée va se trouver insuffisante à protéger l'empereur, à présent dédoré du danger. Avant 2 ans, nous en aurons l'âme engourdie, nous oublierons. Et ce sera la tragédie, l'horrible tragédie où la mort s'égara dans un vil guet-apens, le Pont Rouge, Gara.